France Info.
Météo, merci à tous d'écouter France Info, il est 5h. Et à la une du premier journal de ce 16 mars, les élections municipales, donc avec un rassemblement national à nouveau plus puissant, une progression aussi des insoumis, des surprises dans les grandes villes et des deuxièmes tours qui s'annoncent incertains. Dans ce journal, nous serons à Paris, à Lyon, à Nice aussi, où Éric Ciotti arrive largement en tête. L'actualité ce matin, c'est aussi la guerre au Moyen-Orient et la plupart des pays appelés à l'aide par Donald Trump qui refusent de dépêcher des navires militaires. Et puis les Oscars, point complet sur le palmarès de la cérémonie cette nuit. Ce sera dans quelques minutes. Et commençons un autre tour de France des résultats de ces municipales. Avec la plus grande ville du pays, la capitale, Paris, le candidat de la gauche unie, Emmanuel Grégoire, arrive largement en tête devant sa rivale de droite, Rachida Dati. 38% des voix pour lui, 25% pour elle, selon les résultats quasi définitifs. Mais la victoire n'est pas acquise pour Emmanuel Grégoire, car la tête de liste des Insoumis, Sophia Chikirou, elle arrive à 11% des voix et elle peut donc se maintenir au second tour. Elia Bergel, vous étiez aux côtés des militants PS qui appelle les insoumis désormais à voter socialiste dimanche prochain.
Une nouvelle campagne commence dès aujourd'hui.
Face à la droite extrémisée prête à se corrompre avec l'extrême droite, seule la liste que je conduis peut l'emporter.
Très largement en tête, Emmanuel Grégoire veut incarner le vote utile. Pas question de fusionner sa liste avec celle de Sophia Chikirou, comme l'insoumise le demande. Le socialiste martèle depuis des mois qu'il ne veut pas de rapprochement avec LFI. Plutôt une bonne chose pour ses électeurs PS.
Je crois que les consignes sont assez claires, il n'y aura pas d'alliance a priori.
Ça me paraît un peu compliqué, après la priorité c'est de surtout pas perdre Paris et c'est de ne pas laisser la Paris à droite.
Mais sans fusion entre le PS et LFI, les voix de la gauche peuvent se disperser et faire basculer Paris à droite après 25 ans de gestion socialiste. Une catastrophe pour cet électeur PS.
Quelles seront les subventions qui seront versées aux associations qui militent peut-être pour les droits des étrangers ou pour le droit au logement? Quelle sera la politique du logement qui est mise en place à Paris depuis 25 ans? Ce que je leur dis, c'est votez à gauche, les gars. On a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous.
Un message à LFI. Les socialistes ont désormais une semaine pour convaincre les insoumis après des mois d'invectives entre les deux camps.
France Info reportage à Paris signé Elia Bergel. Autre ville, autre grande ville du pays où les socialistes et la gauche unie arrivent en tête. Marseille, Benoît Payan est en tête avec 36,6% des voix selon des résultats là encore quasiment définitifs. 99% des bureaux ont été dépouillés. Et là aussi, une autre liste de gauche est qualifiée, celle de Sébastien Delogu, l'insoumis qui remporte 12% des suffrages. Et ce sera donc stratégique au deuxième tour, car Benoît Payan est talonné par le Rassemblement National. Franck Alizio obtient 35% des voix. Marseille pourrait donc basculer dans l'escarcelle du Rassemblement National dimanche prochain. Alors le maire sortant, Benoît Payan, avec beaucoup de gravité, a appelé au rassemblement contre l'extrême droite hier soir.
Le Rassemblement National est aux portes du pouvoir dans cette ville. Jamais à Marseille, le Rassemblement n'aura été aussi près de la victoire. Et c'est pour ça que j'appelle ce soir les Marseillaises et les Marseillais à se rassembler dès dimanche prochain autour du printemps marseillais, autour de cette liste qui porte en elle l'histoire, les ferments et l'avenir de cette ville. Je les appelle toutes et tous, du 1er au 16e arrondissement, à venir nous rejoindre, à montrer que cette ville résiste à la vague brune, à montrer que cette ville n'accepte pas la division, qu'elle est faite de femmes et d'hommes qui la portent, qui croient en elle, qu'elle n'est pas faite de celles et ceux qui veulent nous trier en fonction de notre religion, de notre couleur de peau ou du quartier où l'on habite. Je veux d'une ville où on puisse vivre bien, ensemble, en harmonie. C'est ça l'histoire de notre ville.
Le maire sortant de Marseille, Benoît Payan, qui pour l'heure refuse de fusionner sa liste avec celle de Sébastien Delogu, le candidat insoumis qui se qualifie lui aussi pour ce second tour de dimanche prochain. L'union semble très difficile à gauche, elle l'est aussi à droite pour le moment. Alors Jordan Bardella, le patron du Rassemblement National, se dit qu'il se maintiendra au second tour si les listes sont qualifiées, mais il tend la main, c'est ce qu'il dit, aux listes de droite sincères. Là encore, ce sont ces mots qui refusent le désordre de l'extrême gauche et la dilution dans le macronisme, fin de citation, avec donc des fusions qui seraient éventuellement possibles. Mais le patron de LR, Bruno Retailleau, lui appelle à un grand rassemblement de la droite pour battre la gauche et pour battre le RN, la droite divisée à Nice, où Éric Ciotti, le candidat de l'UDR, ancien président des Républicains, mais depuis allié de Marine Le Pen, devance le maire sortant Christian Estrosi de 13 points. Une bataille qui s'annonce extrêmement difficile donc pour Christian Estrosi, qui brigue un quatrième mandat à la tête de Nice, Hélène Terzian.
Comme un vent d'euphorie au sein des troupes d'Éric Ciotti, le candidat UDR allié au RN compte bien transformer l'essai.
Ce que nous avons fait est exceptionnel. Osez le changement, n'ayez pas peur de ce changement.
Éric Ciotti veut tourner la page de 3 mandats de Christian Estrosi, devenu son ennemi juré, montrer aussi que sa stratégie est la bonne. Un de ses colistiers en est convaincu.
C'est un sentiment d'aboutissement. Ça fait des mois qu'on se bat pour faire une alliance, une union des droites, et le Niçois a envie du changement.
Avec une telle avance, les ciottistes sont optimistes, surtout si la candidate de la gauche se maintient comme prévu dans la triangulaire qui s'annonce. En difficulté, Christian Estrosi appelle à un barrage républicain.
Je vous invite à ce grand rassemblement de résistance qui, au second tour, nous permettra de remporter cette victoire.
Jean-Pierre, un de ses soutiens, refuse de baisser les bras, mais il admet que le combat est rude.
C'est une bataille, mais là, elle est un tout petit peu plus dure. C'est pas un garçon qui va se décourager, Christian Estrosi.
Le maire sortant appelle les forces politiques de gauche, hors LFI, à tenir une réunion commune pour empêcher une victoire de l'extrême droite.
Hélène Terzian à Nice pour France Info. Et parmi les résultats marquants à retenir de ce premier tour des élections municipales hier, François Baroin à Troyes, maire de droite depuis 1995, qui pour la première fois depuis 30 ans aura besoin de passer par un second tour pour garder sa mairie. À Biarritz, le joueur de rugby emblématique Serge Blanco arrive en tête en ballottage. Et puis à Béziers, l'ancien journaliste devenu polémiste Robert Ménard a réussi à conserver sa mairie de Béziers. Il s'impose dès le premier tour avec 68% des suffrages. Vous retrouvez l'intégralité des résultats de ces élections municipales commune par commune sur franceinfo.fr. Il vous suffit de chercher la vôtre grâce à notre moteur de recherche. À la une également aujourd'hui à 5h07 sur France Info, le trafic suspendu à l'aéroport de Dubaï après une attaque de drone iranien. Par mesure de précaution, cette fermeture, ce drone, il a touché un réservoir de carburant qui est enflammé. Et Donald Trump, lui, pour tenter de rétablir la sécurité dans la région, a de nouveau demandé aux pays touchés par la flambée du cours du pétrole d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, qui est quasiment intégralement bloqué par l'Iran. Il l'a demandé entre autres à la France. Mais pour l'instant, Camille Magnard, les réponses au président américain sont plutôt timides. Alors Donald Trump change de ton.
Il veut annoncer un accord pour une coalition internationale dès cette semaine, Donald Trump. Mais malgré un week-end au cours duquel il a multiplié les appels du pied vers les Asiatiques et les Européens, il n'a reçu aucun engagement ferme. Alors le président américain passe directement de la demande d'aide à la menace. Il prévient les Chinois qu'il pourrait reporter sine die sa visite événement à Pékin, prévue fin mars, et il laisse entrevoir aux États membres de l'OTAN un avenir très sombre pour l'Alliance Atlantique si ces États envoyaient une réponse négative ou bien pas de réponse à sa proposition de coalition pour Hormuz. Le président américain perd patience. On sait qu'il aurait voulu trouver une porte de sortie rapide à cette guerre contre l'Iran et qu'il ne peut décemment pas, vu la situation actuelle, crier victoire et passer à autre chose. En attendant, le prix du baril de pétrole est repassé au-dessus des $100 aux États-Unis. Il a plus que doublé depuis le début de la guerre et le ministre américain de l'énergie l'a reconnu hier. Il n'a aucune garantie que ce prix reparte à la baisse avant des semaines.
Camille Magnard, correspondant aux États-Unis de France Info. Et justement, restons-y. Bonjour Matteo Maestrachi.
Bonjour.
Alors, ne parlons pas de guerre, mais de cinéma désormais avec vous. Ça va faire du bien avec la 98e cérémonie des Oscars qui avait lieu donc cette nuit à Los Angeles. Vous l'avez suivi pour nous. Et c'est donc une bataille après l'autre qui est sacré meilleur film.
Oui, le film de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio et Sean Penn. Parmi d'autres très beaux castings, on peut citer également Benicio Del Toro ou Teyana Taylor. Librement adapté, ce film du roman Vineland de Thomas Pynchon, qui s'attache à un groupe d'activistes radicaux, un brin, un pied nickelé qui attaque notamment des centres de rétention pour migrants dans l'Amérique du début des années 2000. Film à forte résonance politique actuelle, bien sûr, même si le cinéaste qui a aussi remporté l'Oscar de la réalisation s'en défend. Pour les autres récompenses, c'est l'Irlandaise Jessie Buckley qui devient meilleure actrice pour Hamnet. Michael B. Jordan et son double rôle, il joue deux frères jumeaux dans Sinners de Ryan Coogler, a donc, comme on le pressentait, battu Timothée Chalamet pour la statuette tête de meilleur acteur. Sean Penn et Amy Madigan sont meilleurs comédiens dans un second rôle. K-pop Demon Hunters, meilleur film d'animation. Dommage pour Arco, le magnifique film français signé Hugo Bienvenue. Et Valeur sentimentale de Joachim Trier, le Norvégien, devient meilleur film étranger.
Merci beaucoup Matteo Maestrachi et merci de nous avoir épargné la musique de K-pop Demon Hunters.
Ce sera pour après.
Ça sera pour plus tard. Merci beaucoup Matteo Maestrachi. Christine Peña, dans votre météo, une journée de nouveau très nuageuse.
Effectivement, les nuages ont envahi de nouveau notre ciel. Ils sont de retour, les éclaircies seront peu nombreuses. Alors, les averses se produisent, mais essentiellement sur un quart nord-est, entre Lille, Paris, Bourges et Strasbourg cet après-midi. Surtout, là, le soleil, on le trouve quand même, surtout entre les Pyrénées-Orientales et la région PACA, en Corse également, avec le duo Mistral et Tramontane. Des températures en légère hausse ce matin, beaucoup moins de gelée qu'hier matin, en tout cas sur la partie nord. Et puis cet après-midi, on ira de 11 à Nancy et Mulhouse jusqu'à 20 à Montpellier et Toulon.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h11.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
Tous les temps forts de l'info, des éclairages, de l'insolite, du terrain, de l'histoire.
Abonnez-vous à nos comptes.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
Et nous continuons à parler des municipales qui avaient lieu hier. Le premier tour à venir, les derniers résultats qui ont été consolidés dans les grandes villes. Et puis le début des tractations pour le second tour de dimanche prochain.
France Info. Spécial municipal 2026. William Gecosta.
Alors quel bilan tiré de ce premier tour, plusieurs dynamiques déjà pour le Rassemblement National qui progresse à nouveau dans ce scrutin municipal, mais aussi la France Insoumise qui parvient à ravir des mairies, par exemple à Saint-Denis, la deuxième ville d'Île-de-France. C'est le candidat de la France Insoumise qui s'est imposé dès le premier tour face aux socialistes sortants. À Roubaix, David Guiraud, le député David Guiraud, insoumis lui aussi, est très bien parti pour l'emporter. Il est très proche de la barre des 50% déjà dès ce premier tour. Et puis, des listes insoumises sont bien placées et se qualifient pour le second tour dans des grandes villes comme Paris ou Marseille et pourront peut-être peser sur le résultat final de ce scrutin. Et le premier enseignement de ces municipales que tire le député insoumis Louis Boyard, c'est qu'on ne peut plus faire sans LFI.
Je veux souligner la nette avancée de la France Insoumise dans cette élection municipale. Nous serons présents au second tour dans plus d'une centaine de villes. Et c'est la preuve que dès lors qu'on porte un programme de rupture, celui pour la cantine gratuite, la dignité du logement, la fin des crèches privées par exemple, vous avez des milliers de personnes qui décident de reprendre le pouvoir sur leur vie et leur ville à travers les urnes. Et je veux les remercier ce soir et je veux leur dire qu'il va y avoir un second tour dans un certain nombre de villes. Et je les appelle à aller voter à ce second tour pour faire gagner largement la France Insoumise.
Comment ça va se passer dans les cas de figure où le second tour s'annonce serré? Est-ce que les candidats insoumis pourront se désister au profit d'un candidat socialiste qui sera le mieux placé?
Il y a plusieurs éléments à donner. Le premier, c'est que la France Insoumise appelle à un rassemblement qui se fasse sur une base programmatique. Et quand il y a un risque de voir la droite ou l'extrême droite gagner, alors là, il faut avoir une sorte forme de fusion démocratique. C'est-à-dire un rassemblement qui permettre de battre la droite et l'extrême droite. Je tiens à dire très solennellement, retirer les candidates et les candidats insoumis, c'est s'assurer la défaite. Vous ne pouvez plus faire sans les insoumises et les insoumis, et c'est pourquoi nous appelons à un rassemblement.
Donc vous dites que ce sera plutôt aux candidats socialistes et écologistes de se retirer, mais il n'y aura pas d'insoumis qui se retirera.
Nous, ce que l'on dit, c'est que si, lorsque nous sommes en tête, nous sommes prêts à un rassemblement sur des bases programmatiques, mais si jamais vous avez par exemple des socialistes ou des écologistes qui sont en tête, et qu'en face vous avez le risque de voir la droite et l'extrême droite gagner, avec des conséquences terribles dans la vie des gens, enfin les mairies d'extrême droite privatisent les crèches, privatisent les piscines, ferment des centres sociaux, retirent de l'argent aux associations, donc c'est de la vie des gens dont on parle. Donc nous appelons à une forme de fusion démocratique, c'est-à-dire à ce que la liste qui est le plus en tête à gauche fusionne et les insoumises et les insoumis sont prêts à y participer. Mais je le redis, si jamais certains croient que en faisant que les insoumis se désistent, ils pourraient gagner, c'est faux. Si jamais vous n'avez pas les insoumises et les insoumis qui sont dans ces listes de rassemblement, vous allez perdre parce que vous ne pouvez plus faire sans les insoumises et les insoumis. Et je vais dire pourquoi. Parce que ces gens qui votent pour nous, ils se disent on a des gens qui vont tenir la ligne, on a des gens qui vont respecter le programme pour lequel ils ont été élus. élus. On a des gens qui nous représentent dignement. Et les gens en ont marre de voter par défaut. Maintenant, ils veulent voter par choix et voilà pourquoi est-ce que la France Insoumise appelle à ce rassemblement.
Le député insoumis Louis Boyard sur France Info. Alors, on l'entendait, LFI veut désormais fusionner avec les listes de gauche qui arrivent devant elle, devant la France Insoumise. Mais pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour à Marseille, par exemple, où Benoît Payan rejette en bloc toute idée de fusion avec le candidat insoumis Sébastien Delogus. Ce n'est pas à l'ordre du jour non plus à Paris, où le socialiste Emmanuel Grégoire arrive très largement en tête, mais où Sophia Chikirou, l'insoumise, s'est également qualifiée avec sa liste pour le deuxième tour. Une position très avancée pour l'heure des socialistes à Paris, qui ravit l'eurodéputé Emma Rafovitz du PS. Elle est chargée aussi des élections à la Fédération de Paris.
C'est un vrai plaisir, évidemment, de voir que cette gauche que nous représentons, que je représente aussi en tant que première secrétaire fédérale du PS Paris avec mes collègues Lamia Elarage et Maxime Sauvage, c'est une belle campagne que nous avons faite. Nous avons réussi à unir la gauche dès le premier tour.
Si on fait exception de la France Insoumise.
Tout à fait, mais vous savez, Sophia Chikirou, on l'a beaucoup entendue lors de cette campagne. Finalement, elle a plus fait campagne contre les socialistes que contre la droite. Nous, nous ne nous sommes jamais trompés d'adversaire. L'adversaire, c'est cette droite qui finalement hésite. Qui hésite avec l'extrême droite, c'est ce que Rachida Dati a dit tout le long de cette campagne, en n'osant jamais qualifier Sarah Knafo d'extrême droite. Mais Paris, c'est pas ça. Paris, c'est une ville, c'est la ville des Lumières, c'est une ville qui est belle, qui est une promesse d'émancipation, qui est une ville aussi qu'il faut continuer à transformer, et c'est ça la promesse d'Emmanuel Grégoire ce soir.
Est-ce que vous demandez à Sophia Chikirou, la candidate insoumise qui fait un bon score, près de 14% ce soir, est-ce que vous lui demandez de se désister et d'appeler à voter pour Emmanuel Grégoire ?
Moi, je ne demande rien à Sophia Chikirou. Moi, je crois que nous sommes très clairs. Nous n'avons pas eu d'accord avec elle au premier tour. Nous n'en aurons pas au second non plus.
Mais vous partez du principe qu'elle se maintiendra quoi qu'il arrive.
Je n'en sais rien, dans sa tête et sincèrement je ne le souhaite à personne. Par contre, ce que je peux dire, c'est que à Paris, la promesse que nous portons, c'est une promesse d'émancipation, une promesse universaliste, mais aussi une certaine idée de la gauche, de rupture radicale sur les questions sociales et écologiques. C'est ce qu'on a porté depuis 2001 avec la gauche, et je crois que les Parisiennes et les Parisiens ce soir, eh bien, ils se sont dit, et ils ont montré en tout cas dans les urnes, qu'ils choisissaient cette gauche utile là.
On a entendu Olivier Faure tout à l'heure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui annonçait qu'il n'y aurait aucun accord national pour le second tour avec la France Insoumise. Est-ce que, au cas par cas et dans certaines villes, il peut y avoir des rassemblements, des fusions de listes lorsqu'un candidat de droite ou du Rassemblement National est en bonne position pour l'emporter?
Écoutez, moi, c'est très simple. Je pense que toujours, nous avons été responsables. Y compris, d'ailleurs, il y a quelques jours, nous avons été, le Parti Socialiste, extrêmement clair. Dans une résolution de notre instance nationale, le Bureau National du Parti Socialiste, où nous avons très clairement souhaité dénoncer les propos antisémites de Jean-Luc Mélenchon. Moi, écoutez, je ne suis pas celle, évidemment, qui va déposer en préfecture les listes de mes camarades. C'est comme ça que ça se passe, vous savez, les élections municipales, ça ne se décide pas au niveau national. En effet, pas d'accord au niveau national avec la France Insoumise. Olivier Faure l'a dit tout à l'heure, très clairement, je crois, dans son intervention. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, c'est un échec. Il a fait la campagne en tapant sur la gauche, en tapant sur les socialistes, et le résultat, eh bien, ce n'est en tout cas pas une victoire face à la droite et l'extrême droite. Il doit... Tous les électeurs de gauche, tous les républicains doivent aujourd'hui voir ce qu'il se passe dans ce pays. Les alliances qui ont lieu dès le premier tour, ce ne sont pas des alliances entre le PS et la France Insoumise. Ce sont des accords, partout en France, entre la droite qu'on pensait républicaine et l'extrême droite. Et les personnes, les citoyens qui sont aujourd'hui mobilisés pour battre cet accord, eh bien écoutez, ce sont les socialistes qui unissent la gauche.
L'eurodéputée du PS, Emma Rafovitz, qui répondait sur France Info aux questions de Thomas Séchier. Alors nous avons entendu les insoumis, les socialistes, quel bilan pour les écologistes dans ces élections municipales, ce premier tour après leur forte poussée en 2020. Nous sommes avec David Cormand dans un instant.
France Info, 5h-6h.
Bonjour Maureen Suignard.
Bonjour à tous.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec vous, et à la une, évidemment, c'est municipal et des seconds tours incertains à Paris, Marseille et Lyon.
Notamment après le premier tour des élections municipales hier. Dans la capitale, c'est le socialiste Emmanuel Grégoire qui arrive en tête avec près de 38% des voix devant l'ex-ministre Les Républicains Rachida Dati qui obtient 25,5% des voix. Elle propose une liste d'union aux candidats Horizon Pierre-Yves Bournazel. À Marseille, le maire sortant, le socialiste Benoît Payan devance d'une très courte tête, Franck Alizio du Rassemblement National. Benoît Payan appelle à se rassembler autour de sa liste et refuse de négocier avec Sébastien Delogu de la France Insoumise. Et du côté de Lyon, le maire sortant Grégory Doucet, à la tête d'une large coalition de gauche, devance l'ancien président de l'Olympique lyonnais Jean-Michel Aulas, mais il y a moins de 1200 voix d'écart. Ce premier tour est aussi marqué par une poussée du Rassemblement National. Louis Alliot est réélu dès le premier tour à Perpignan, tout comme Steve Briwa à Hénin-Beaumont ou encore David Racheline à Fréjus, à Nice. Pardon, c'est un allié du RN, Éric Ciotti, qui est en tête devant le maire sortant, Christian Estrosi. Et puis, c'est Michael B. Jordan qui décroche l'Oscar du meilleur acteur pour son jeu dans le film Sinner. La statuette échappe donc à Timothée Chalamet. La cérémonie américaine a aussi récompensé une bataille après l'autre, Oscar du meilleur film.
France Info, municipal 2026.
Alors, Maureen Suignard a l'évoqué à l'instant à Lyon. Grégory Doucet, le maire sortant écologiste, arrive en tête contre toute attente. Les sondages jusqu'à maintenant le donnaient derrière Jean-Michel Aulas, le candidat centriste, ancien président de l'Olympique lyonnais, figure locale. Mais c'est donc bien Grégory Doucet et sa liste d'Union de la gauche qui arrivent en tête avec 37,36% des suffrages devant Jean-Michel Aulas avec 36,78%. C'est extrêmement précis. Et cette première place au premier tour de ces municipales pour les écologistes, c'est une très bonne nouvelle. Des écologistes qui se disent satisfaits de leur bilan après, nous le disions, une forte poussée en 2020 et des villes comme Lyon acquises lors de ce scrutin. David Cormand était l'invité de France Info. Il était eurodéputé des écologistes.
À la lumière des sondages et beaucoup d'analyses de presse nous expliquent depuis 4 mois que ça allait être la Bérézina, que les gens voulaient plus d'écologie, que à Lyon notamment...
On disait que ça allait être sans doute assez difficile.
Ah non, on disait fortement, les gens veulent plus d'écologie. Regardez à Lyon les sondages, on a commencé à 47-22, je crois, la campagne de Lyon. À l'arrivée, les deux plus grandes villes que nous gouvernons, Lyon et Bordeaux, nous sommes en tête ou en passe de l'être et en situation d'espérer l'emporter la semaine prochaine. Et puis dans d'autres villes où c'est plus compliqué, comme à Strasbourg, Catherine Trottmann est beaucoup moins haute que ce qu'elle était annoncée. Elle est annoncée autour de 30-31. Elle est plutôt à 25. Elle
l'ancienne
aussi...
maire socialiste de Strasbourg, oui, pardon, qui effectivement se représente et qui est en tête, votre candidate Jeanne Barseguian, qui est, je crois, troisième
autour de 20%. Et donc, ça joue, comme on dit, pour filer les métaphores footballistiques chères à Jean-Michel Aulas. Nous sommes en capacité de jouer la gagne encore, même si c'est difficile à Besançon, mais nous sommes concentrés sur cet objectif. Nous sommes en tête à Tours, nous sommes en tête à Poitiers, nous sommes en tête de la gauche à Lorient, qui était une ville que nous ne gouvernions pas, mais que nous pouvons gagner la semaine prochaine. Et puis dans des villes où on avait apporté notre soutien, vous venez de parler de Paris, nous n'avions jamais été en liste commune dès le premier tour à Paris, puisqu'on avait des listes écolo depuis 1977, ce support a été, je pense, décisif dans la dynamique qui permet aujourd'hui d'avoir un score aussi important. Donc on est satisfait autant qu'on peut l'être un soir de premier tour, puisque l'ensemble des villes dans lesquelles nous sommes maires, nous pouvons espérer toujours gagner la semaine prochaine, et ça va dépendre de la mobilisation du peuple de gauche.
L'inquiétude peut-être pour la gauche, c'est Marseille ?
L'extrême droite est très haute à Marseille, surtout que les gens de droite à Marseille, visiblement, ont arrêté de voter à droite, et ils ont voté entre guillemets utile pour l'extrême droite. Après, Benoît Payan, visiblement, va virer en tête, ce qui est quand même pas si mal, hein, malgré
cette pression.
Alors
on est peut-être à un demi-point d'avance pour Benoît Payan.
Bon, c'est ça, donc c'est compliqué. Mais oui, on est vraiment dans cet entre-deux, parce que la gauche et l'écologie est en capacité peut-être de faire le grand chelem. C'est quoi ce que j'appelle le grand chelem ? C'est les 5 plus grandes villes de France. Paris, Lyon, Marseille, plus Toulouse, plus Bordeaux. Ça va dépendre de comment on s'allie ou pas. En fait, le total gauche dans toutes ces villes, elles nous permettent de gagner. Donc après, on décide. Soit on décide de ne pas les gagner parce qu'on ne veut pas se mettre ensemble, soit on décide de se mettre ensemble et nous les gagnons. Et la puissance d'entraînement que feraient ces alliances dans ces villes, elle permettrait à la gauche d'avoir une perspective, à la fois pour les habitantes et les habitants des villes de France qui sont concernés. Parce que là, on parle d'élections, mais en fait, c'est des politiques publiques, c'est la vie du quotidien. En fait, ça va vraiment concerner la vie des gens pendant les 6, voire les 7 prochaines années, parce que les élections municipales peuvent être reportées. Et donc, moi, voilà, souvent, vous savez, je dis, une campagne à 2 tours, c'est 2 élections. Au premier tour, il y a la baston, on choisit, enfin, on a le droit de se taper entre gauche, machin. Au deuxième tour, c'est autre chose, c'est on élimine. Et donc, au deuxième tour, c'est gauche, droite ou extrême droite. Point barre. Il n'y a pas à discuter plus. Mmh. Donc, pour moi, il faut aller dans cette direction-là.
Donc, partout où un écologiste ou un insoumis ou un socialiste peut se, peut-être pas retirer, mais en tout cas peut fusionner avec l'un ou l'autre.
Non, mais il n'y a pas de retrait, il y a fusion.
Fusion.
Le retrait, pour
donc,
moi...
Donc, fusion, pour nos auditeurs, c'est on prend des noms...
Deux listes qui sont en situation de pouvoir se maintenir au deuxième tour et qui ont des points communs en termes de vision de société, ce qui est le cas des listes de gauche ou écologistes, elles s'allient ensemble, donc elles se mélangent, pour pouvoir se présenter ensemble le deuxième tour.
Sauf que le Parti Socialiste n'a pas l'air totalement emballé à l'idée de faire une alliance jusqu'aux insoumis.
Vous êtes sûr? J'ai cru comprendre ça aussi. Je pense que c'est une erreur. Alors, je comprends que c'est compliqué, parce qu'y compris au sein du Parti Socialiste, il y a des positions et des postures qui ne sont pas les mêmes. Et moi, encore une fois, je respecte toutes les positions, voilà, tout ça. Mais à un moment, ce qui définit, et moi je vous dis ça en étant écologiste, donc, tous ces gens-là ont une histoire commune, hein, entre les insoumis et les socialistes. Et là. Mais en fait, y compris, on le voit, le peuple de gauche, il vote à gauche. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie...
Des gauches irréconciliables. Non,
pas dans l'électorat.
Malgré les récentes polémiques autour de Jean-Luc Mélenchon et de ses propos.
Mais qui sont inadmissibles. Sauf que...
Mais il faut faire union malgré tout.
Parce que ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est candidat, ce n'est pas lui avec qui... Regardez Lyon. J'entends M. Aulas dire, mais vous êtes fous, ils vont fusionner, la fusion de la honte, je ne sais pas quoi. Avec...
Les accords de la honte,
je crois. Ça fait 6 ans qu'on gère avec LFI à Lyon. On était en majorité ensemble. Il y a des adjoints et des vice-présidents de la métropole LFI à Lyon. Donc ils ont fait une liste à part au premier tour, mais ils ne se sont pas transformés en gremlins du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est des gens qui mènent des politiques publiques de gauche et écologistes, avec des gens de gauche et écologistes. Et en fait, on peut compliquer les choses, mais la vie, elle est simple. Et moi, je me méfie des postures qui se veulent au-dessus de la mêlée, autour des grandes valeurs. Mais je trouve que c'est des postures qui peuvent aussi paraître parfois un petit peu hors sol. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur Epstein et compagnie, moi, je n'ai pas été les derniers à les dénoncer. Pareil au niveau des Verts, c'est très clair.
Mais
très
vous effacez.
C'est pas que j'efface, c'est que ce n'est pas le même sujet. C'est des gens qui sont des listes de militants de gauche, d'électeurs de gauche, qui pensent d'ailleurs peut-être pas le plus grand bien des propos de Jean-Luc Mélenchon. Le sujet, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est la vie quotidienne de centaines de milliers de Français les 6 prochaines années. Je vais même vous dire, je m'en fous, moi, de Jean-Luc Mélenchon. En fait, on n'est pas obligé d'être obsédé par Jean-Luc Mélenchon. La question, c'est des élections municipales.
L'eurodéputé écologiste David Cormand qui répondait au micro France Info de Thomas Séchier et Aurélie Herbemont. Et puis, c'est un poncif, mais il se vérifie. La grande gagnante de ces municipales, c'est l'abstention. Moins de 6 Français sur 10 sont allés voter. Et l'une des explications possibles, c'est le changement du mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants. Le panachage qui a disparu. Impossible désormais de rayer un nom sur une liste ou d'en ajouter un autre. Ça se faisait depuis des décennies. Changement qui ne fait pas l'unanimité, loin de là chez les électeurs. Exemple à Quiry-Lamotte, c'est dans le Pas-de-Calais, 700 habitants, Farida Noir. Le maire sortant a remporté les élections hier. Ce que vous avez constaté, c'est que la fin de ce panachage, ça a un peu désorienté les anciens.
Et cette règle, le scrutateur l'a rappelé à chaque électeur.
Il n'est plus possible de barrer, hachurer ou ajouter un nom sur la liste. Sinon, votre bulletin sera considéré comme nul. À voter.
Et pour Jean, arrivé en fin d'après-midi, c'est une grosse frustration.
Je m'aurais intéressé de panacher parce que je connais les gens du village. Alors, sans panacher, je trouve ça drôle. Moi, ça ne me plaît pas.
Est-ce que vous étiez tenté de rayer quand même?
J'ai eu une tentation.
Mais
je dis ça sert à rien, mais ça va être annulé. Le rayer, c'était bien, quoi.
Même regret pour Marcel, arrivé juste derrière lui. Il a glissé son bulletin dans l'urne, mais un peu à contre-cœur.
Dans les deux listes, il y a des gens très bien d'un côté comme de l'autre.
À voter. Bon,
je voudrais regrouper sur une liste, mais on ne peut pas.
C'est fini, ça?
Voilà, c'est fini. Ça me dérange, c'est pas normal.
Là, du coup, c'était compliqué pour vous de choisir pour une liste entière?
Voilà, j'ai voté, mais bon.
Difficile de se défaire d'une pratique qui existait depuis très longtemps. Jean-Pierre le regrette.
Ça devient la norme, comme tout le monde, comme les grandes villes. Et ça, je trouve qu'on perd un peu de... Le goût d'aller voter, quoi.
Et la tentation est parfois restée forte, puisque 2 habitants ont glissé dans l'urne 2 bulletins rayés, comptabilisés donc comme nul.
À voter.
France Info, reportage signé Farida Noir. La météo.
France Info Météo avec CIC. La facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, beaucoup de nuages avec quelques averses.
Mais oui, aujourd'hui le ciel restera effectivement nuageux un petit peu partout à l'ouest sur la façade atlantique. Hein, le temps restera sec en revanche, avec une belle amélioration d'ailleurs au sud de la Garonne. En revanche, sur le quart nord-est de Lille à Paris, jusqu'à Clermont-Ferrand, jusqu'à Strasbourg. En Bourgogne, nous aurons pas mal d'averses, entrecoupées de quelques éclaircies. Elles seront peu nombreuses. Le soleil, on va surtout le chercher sur le quart sud-est. Hein, le ciel s'est dégagé. Enfin, nous avons Tramontane et Mistral en route qui soufflent assez fort de 70 à 80 km/h avec des températures en légère hausse. 11 à Nancy cet après-midi, 13 du côté de Paris, comme à Brest, Bourges, Limoges, Clermont-Ferrand, jusqu'à 18 à Marseille, 16 à Bordeaux et 20 à Montpellier.
Merci beaucoup Christine Peña. À venir dans la prochaine demi-heure, d'ici 6 heures sur France Info, évidemment, ces élections municipales. On fera un point dans un quart d'heure sur les trois principales grandes villes de notre pays, Paris, Marseille et Lyon, où ce sont à chaque fois des listes de gauche qui arrivent en tête, même si ce n'est pas gagné. Et puis ce n'est pas gagné non plus pour Laure Lavalette, mais c'est très bien parti à Toulon, où la candidate du Rassemblement National arrive en tête du premier tour avec plus de 40% des suffrages. Voilà ce qui vous attend, les municipales qui sont évidemment à la une aussi d'un nouveau journal à 5h30. Bienvenue.
France Info.
Nous partons pour un fief socialiste, Lille, qui pourrait bien basculer. 5 candidats sont qualifiés pour le second tour. Le maire sortant PS, Arnaud Deslandes, successeur désigné par Martine Aubry, qui est arrivé en tête, mais il est talonné de près, de très près même, par la candidate insoumise Lawaria Hadouche. Seulement 3 points les séparent dans les résultats, c'est une très grosse surprise. Et en troisième position, un autre candidat de gauche, un écologiste, Stéphane Bally, qui est très courtisé désormais, Romane Porcon.
L'heure n'était pas à la fête hier soir dans le grand carré de l'hôtel de ville. Le maire sortant, Arnaud Deslandes, est pourtant en tête avec 26% des voix. L'élu socialiste a pris la parole brièvement pour tendre la main aux Verts.
Je suis très confiant. Je l'ai dit depuis le départ, au premier tour, je souhaitais que nous puissions être avec les Verts, donc je ne change pas d'avis. Évidemment, je leur tends la main pour ce second tour. On fera ensemble une belle majorité pour la justice sociale et écologique. Maintenant, la soirée commence, les discussions commencent. Voilà.
Ambiance bien différente au QG de la France Insoumise. Lawaria Hadouche est acclamée par ses militants. Créditée à 23% des suffrages, elle savoure cette seconde place.
En nous plaçant en tête du camp de la rupture, il nous confie une responsabilité. Celle de changer la vie des Lilloises et des Lillois. Je suis prête à être maire de Lille et dans une semaine, la cantine pourra être bio et gratuite. Dans une semaine, les logements insalubres et l'impunité des bailleurs sociaux, c'est terminé. Dans une semaine, Saint-Sauveur sera le deuxième grand poumon vert de Lille et dans une semaine, la nouvelle France rentre au beffroi.
Ces promesses ne sont pas choisies au hasard. Elles font écho à celles du candidat écologiste Stéphane Bally, à qui elle propose une alliance.
Je voudrais féliciter Stéphane Bally pour sa très belle campagne. Il a montré pendant 6 ans qu'il était l'opposition franche à la politique néfaste des socialistes. Il a exprimé un désir de rupture et c'est la raison pour laquelle je propose dès ce soir une fusion sur la base de notre programme à la liste Lille demain conduite par Stéphane Bally.
Tous les regards sont donc tournés vers Stéphane Bally. Le candidat écologiste arrivé en troisième position avec 18% des voix se retrouve faiseur de roi. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est trouver un accord qui puisse respecter au mieux son programme.
Reportage ici, Nord, signé Romane Porcon. Et donc pour ces fusions, on le rappelle, le Parti Socialiste exclut tout accord national, je précise, avec des insoumis pour le second tour. Et puis à droite, Jordan Bardella lui aussi dit tendre la main aux listes de droite qu'il qualifie de sincères pour le second tour. Dans les résultats à retenir de ce premier tour des municipales à Pau, François Bayrou, l'ancien Premier ministre, maire depuis 2014 de la ville, arrive en tête avec 33% des voix. À Grenoble, le candidat LR Alain Carignon, ancien maire de la ville, lui aussi arrive en tête avec 27% des suffrages et il devance la candidate de la gauche, Laurence Ruffin, avec 20%. 26% des voix. Et puis à Cannes, le maire Les Républicains, David Lisnard, lui, est très largement réélu dès le premier tour avec plus de 80% des voix. C'est municipal. Nous allons y revenir évidemment dans les prochaines minutes sur France Info et vous retrouver l'intégralité des résultats dans votre commune avec notre moteur de recherche sur franceinfo.fr. À la une également à 5h35, cette déclaration d'Emmanuel Macron. Il est inadmissible que la France soit ciblée. C'est ce qu'il a dit à Massoud Pezeshkian, le président iranien. Les deux chefs d'État se sont téléphonés hier après la mort dans une frappe en Irak voisin d'un soldat français. Je lui ai rappelé que la France intervient dans un cadre strictement défensif de protection de ses intérêts, écrit le chef de l'État qui réclame aussi le retour en France de Cécile Kohler et Jacques Paris qui sont toujours retenus à l'ambassade de France à Téhéran. Et puis c'était cette nuit la 98e cérémonie des Oscars à Los Angeles et le meilleur film, c'est Une bataille après l'autre, Paul Thomas Anderson, le réalisateur aussi sacré pour la meilleure réalisation.
En 1975, les nommés pour meilleur film étaient Une après-midi de chien, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Les Dents de la mer, Nashville et Barry Lyndon. Il n'y a pas parmi ceux-là de film meilleur que les autres. C'était juste ce que l'humeur du jour était au moment du vote. Mais on est heureux d'en faire partie. Un très beau voyage pour nous. Parmi les autres films nommés en notre compagnie et les autres réalisateurs ou réalisatrices non reconnus par l'Académie, il y avait tant de bons films cette année.
Et les statuettes de meilleure actrice et de meilleur acteur vont à Jessie Buckley pour Hamnet et Michael B. Jordan dans Sinners. La statuette de meilleur acteur ne va donc pas au franco-américain Timothée Chalamet. Merci d'être avec nous sur France Info. Il est 5h36.
France Info. Spécial municipal 2026. William Guécosta.
Et partons à Toulon, chef-lieu du Var, où c'est la candidate du Rassemblement National, Laure Lavalette, qui arrive largement en tête du premier tour aux alentours de 40% des voix pour la candidate RN devant la maire sortante d'hiver droite, José Massy, qui elle remporte une trentaine de pourcents des suffrages, et devant un autre candidat de droite dissident, le LR, Michel Bonus. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Service politique de France Info, vous êtes à Toulon. Et c'est donc le Rassemblement National qui fait l'un de ses meilleurs scores au premier tour dans la ville, mais ce n'est pas gagné pour autant.
Non, loin de là, et pour une raison très simple, le Rassemblement National dispose en réalité de très peu de réserves de voix, d'autant qu'après un vrai faux suspense hier soir, le troisième homme de ce scrutin, le LR Michel Bonus, a annoncé dans son QG de campagne qu'il se retirait au profit de la maire sortante José Massy, arrivée donc deuxième. La droite avance unie pour le second tour, avec qui plus est un appel de la tête de liste de la gauche unie, Magali Brunel, qui ne s'est pas qualifiée. Elle a fait 9%, selon qui aucune voix ne doit aller au RN au second tour.
Mais Pierrick, Laure Lavalette veut quand même croire que les électeurs de droite voteront pour elle.
Oui, malgré le désistement du candidat LR qui annonce qu'il va discuter avec la maire sortante, la porte-parole du RN est proche de Marine Le Pen, espère attirer vers elle des électeurs LR qui ne voudraient pas reconduire José Massy, accusé par Laure Lavalette d'être une macroniste qui fraye avec la gauche. Elle a lancé également hier soir, Laure Lavalette, un appel aux électeurs de gauche jusqu'aux insoumis, ironie du sort. La candidate RN met en avant son projet de référendum sur les transports partagé, selon elle, avec la candidate LFI, tentative un peu désespérée d'attirer à elle des électeurs qui s'oppose frontalement au RN.
Oui, pourquoi ça s'annonce si compliqué pour celle qui était pourtant donnée favorite ?
Justement parce qu'elle était donnée favorite selon un cadre du RN. C'était le risque, analyse ce député. Elle est partie trop haut dans les sondages et du coup, ses adversaires se sont surmobilisés contre elle. L'entourage de Laure Lavalette dénonce aussi le système Falco du nom de l'ancien maire qui a dû démissionner après une condamnation de justice. Système encore influent dans la ville selon le RN. Mais la candidate proche de Marine Le Pen veut continuer d'y croire. C'est une nouvelle campagne qui commence, nous confiait-elle hier soir.
Merci beaucoup Pierrick Bonneau du service politique de France Info à Toulon, où Laure Lavalette est donc largement en tête avec 42% des suffrages. On l'entendait, ce n'est pas gagné, mais c'est tout de même un grand motif de satisfaction pour le Rassemblement National, dont la plupart des maires ont été reconduits lors de ce premier tour des municipales, notamment Louis Alliot à Perpignan. Et le Rassemblement National, plus généralement, continue de progresser partout dans le pays. Et le RN salue donc ses avancées. Julien Audoul est député porte-parole du Rassemblement National.
Il y a une chance historique de pouvoir mettre nos idées au pouvoir à Marseille. J'observe et je déplore avant toute chose les graves irrégularités, les fraudes, qui ont été recensés lors des différentes opérations de vote à Marseille, avec des bureaux de vote qui ouvraient à 8h30, non à 8h, avec des présidents de bureaux de vote qui ont eu des comportements totalement antidémocratiques et contraires aux règles électorales. C'est triste, en fait, que dans la deuxième ville de France, de plus en plus, chaque scrutin soit émaillé, entaché de ces irrégularités. J'espère que l'État mettra les moyens pour le second tour afin que les Marseillaises et les Marseillais puissent s'exprimer dignement, sans qu'il y ait de pression, d'intimidation et de dysfonctionnement. Après, sur le résultat, bien évidemment, nous appelons tous les électeurs qui veulent le changement, qui veulent se débarrasser de la gauche, qui veulent plus de sécurité, moins de fiscalité, qui veulent redresser cette ville qui est en déclin depuis des années, à se mobiliser autour de la candidature de Franck Alizio, et notamment les électeurs de Mme Vassal. Parce que Mme Vassal, qui n'est pas à la hauteur des responsabilités qu'elle était censée occuper, en tout cas qu'elle briguait, aujourd'hui, son maintien fait peser le risque de la réélection de M. Payan, de la continuité.
Vous l'appelez à se désister, la candidate de la droite ?
Ah ben, en tout cas, moi je l'appelle à, en conscience, observer que le seul qui peut gagner et faire gagner Marseille et empêcher la reconduction de la gauche et de l'extrême gauche, c'est Franck Alizio, c'est le Rassemblement National. Et leurs électeurs, les électeurs de Mme Vassal, doivent aussi prendre conscience que leur vote, s'ils veulent véritablement qu'il soit utile pour leur quotidien pour les 7 prochaines années, c'est pas rien, il faut qu'ils se portent sur la candidature de Franck Alizio.
Vous avez vu ce que dit Bruno Retailleau, le président des Républicains, qui appelle à un grand rassemblement de la droite pour battre la gauche ou le RN. Il ne vous tend pas la main.
Oui, mais M. Retailleau est en train de sombrer. Malheureusement, il ne sait plus où il habite et il est à la tête d'un équipage totalement à la dérive. Nous appelons les électeurs qui veulent que leurs idées arrivent au pouvoir et qui nous rejoignent sur l'essentiel des propositions et de la vision de la société. Ces électeurs-là ont la possibilité, le 22 mars, que ce soit à Marseille, que ce soit à ailleurs, que ce soit évidemment à Nice où Éric Ciotti est très bien placé pour l'emporter, tous ces électeurs encore une fois, nous rejoignent sur les idées, sur les valeurs, sur la vision de la société, doivent se rassembler autour des candidatures du Rassemblement National pour nous faire gagner et empêcher le risque de réélection ou d'élection de la gauche et de l'extrême gauche.
Vous avez cité Éric Ciotti qui est effectivement en tête avec son parti l'UDR qui est associé au Rassemblement National à Nice. Laure Lavalette également, députée RN qui est en tête à Toulon, ça fait partie des motifs de satisfaction, j'imagine. En revanche, dans plusieurs grandes villes, à Marseille, effectivement, vous êtes au coude à coude. En revanche, si on prend à Paris, Thierry Mariani est à 1%, à Lyon, à Toulouse, ça reste encore difficile dans ces grandes villes pour le Rassemblement National.
Bon, il n'y a pas vraiment de surprise sur certaines grandes villes où, effectivement, notre assise électorale est plus faible qu'ailleurs. Pourtant, on observe des progressions dans d'autres grandes villes, effectivement. Nous observons une forte progression, par exemple, à Saint-Étienne, qui n'a jamais été un territoire propice au vote Rassemblement National. Et puis, surtout, moi, j'observe que dans bon nombre de départements, il y a des élections ou des réélections dès le premier tour. Dans le Pas-de-Calais, 7 villes gagnées au premier tour. En Gironde, 2 villes gagnées au premier tour. Nos maires réélus brillamment, avec des plébiscites, que ce soit Ludovic Pajot, 81%, que ce soit Stibrioua, 78%. Vous aviez rappelé évidemment la réélection de Louis Alliot à Perpignan. Tout ça sont des motifs de satisfaction puisque la gestion au Rassemblement National, elle est plébiscitée, elle est saluée par les électeurs, et ce qui montre bien que quand nous arrivons en responsabilité, bah on veut que ça continue.
Est-ce que vous nous confirmez qu'au second tour, partout où le RN s'est qualifié, il y aura bien un candidat RN? Je vous pose la question parce que certains, je pense à Aurore Berger, ministre du gouvernement, qui vous avait appelé pour battre LFI, eh bien, à vous retirer éventuellement pour faire une sorte de front anti-LFI. Qu'en est-il?
Mais nous avons été toujours cohérents dans la lutte contre l'extrême gauche, qui n'est pas le cas de Mme Berger et de son parti. Parce que très clairement, si LFI a autant de députés à l'Assemblée nationale, c'est parce que M. Attal et les macronistes se sont désistés pour faire élire notamment des députés sulfureux, antisémites, communautaristes, homophobes et j'en passe. Nous avons toujours été clairs et nous sommes le rempart contre l'extrême gauche. Après, quand nos électeurs votent pour les listes du Rassemblement National, c'est qu'ils souhaitent avoir des élus du Rassemblement National, qu'ils souhaitent être défendus quand nous ne gagnons pas, qu'ils souhaitent avoir leurs idées représentées. Et après, sur des cas très particuliers, je pense qu'on peut évoquer Roubaix, par exemple, ce sera décidé
avec,
par...
l'insoumis David Guiraud qui est en tête.
Effectivement, ce qui serait un terrible risque pour la ville et ses habitants.
Par cas, il peut y avoir éventuellement des alliances.
Ce sera décidé par nos instances, mais en tout état de cause, pour l'immense majorité des cas où nous pouvons être représentés, où nos électeurs pourront être défendus pendant 7 ans au sein de conseils municipaux, effectivement, il n'y a pas de désistement, nous maintiendrons pour le second tour.
Dans les villes où le Rassemblement National n'est pas qualifié, c'est le cas de Lyon par exemple, vous soutenez qui? Vous souhaitez la victoire de qui?
Écoutez, j'observe que M. Aulas effectivement a dévissé avec une campagne assez pitoyable, en refusant les débats, et puis avec des messages même à l'endroit du Rassemblement National et de l'UDR qui ont été extrêmement déplaisants. Effectivement, il y a une, en tout cas, nos électeurs auront un choix à faire face à une extrême gauche qui a montré en 6 ans tous les ravages qu'elle pouvait faire au niveau municipal.
Un maire sortant écologiste, hein,
voilà,
je le précise.
Donc d'extrême gauche.
Et
je le maintiens exactement. De la politique qui est menée est une politique d'extrême gauche, islamo-gauchiste si vous voulez, mais en tout cas je le maintiens.
Sont aussi vos propos.
Et que j'assume si vous voulez. Mais effectivement, Jean-Michel Aulas, par une campagne et par des messages qui ont été assez nébuleux, pour ne pas dire assez lunaires concernant le Rassemblement National, n'est pas en passe, effectivement, de rassembler.
Et à Paris, que s'est-il passé de Thierry Mariani qui fait 1%? Il a été victime de la candidature de Sarah Knafo, qui vous a finalement doublé la candidate de Reconquête?
À Paris, bon, qui n'a jamais été une terre de prédilection, il faut bien le reconnaître, la candidature de Thierry Mariani était une candidature courageuse, qui n'a pas bénéficié, il faut bien le dire, de l'exposition médiatique, celle de Mme Knafo, parce qu'il y a eu un emballement médiatique autour de Mme Knafo. Très clairement, voilà, il y a eu une préférence qui a été faite, il y a eu un emballement médiatique, et puis Mme Knafo a évidemment des qualités en matière de communication, et donc une majorité d'électeurs, en tout cas du camp national, se sont portés vers elle.
Le député Julien Oudoul, porte-parole du RN, qui répondait aux questions de Thomas Séchier sur France Info. 3 lettres au programme du quart d'heure qui vient. PLM, Paris, Lyon et Marseille. Nous allons faire le point sur les résultats dans les 3 principales villes de France.
France Info, 5h-6h.
Tout d'abord à 6h moins le quart, l'info en une minute avec Maureen Suignard. Et à la une, Maureen, la France insoumise qui dit tendre la main aux autres listes de gauche.
Partout où la droite et l'extrême droite menacent, dit Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, se félicite d'une progression remarquable, dit-il, de son parti. LFI remporte Saint-Denis, la deuxième ville d'Île-de-France, très large avance à Roubaix, à Lille. Le maire sortant, le socialiste Arnaud Deslandes, est donné dans un mouchoir de poche avec sa concurrente LFI, Lawara Hadouche. Au niveau national, le premier secrétaire du Parti Socialiste rejette une alliance avec les Insoumis, tout en demandant aux socialistes de rassembler. À Paris, le socialiste Emmanuel Grégoire devance largement l'ex-ministre Rachida Dati du Parti Les Républicains. Elle propose une alliance avec le centriste Pierre-Yves Bournazel. Sans accord, la candidate insoumise Sophia Chikirou maintiendra sa candidature au second tour. Pas d'alliance PS, la France Insoumise non plus à Marseille, où le Rassemblement National talonne le maire sortant, le socialiste Benoît Payan. Et alors que les prix des carburant continue de grimper à cause de la guerre au Moyen-Orient. Le président américain demande à la France, à la Chine, au Japon, au Royaume-Uni ou encore à la Corée du Sud de sécuriser le détroit d'Ormuz. Par ailleurs, le trafic aérien est suspendu à l'aéroport de Dubaï après une nouvelle attaque de drones.
France Info, municipale 2026.
Qui va remplacer Anne Hidalgo? Tout se décidera dimanche prochain à Paris au deuxième tour de la municipale. Et c'est Emmanuel Grégoire qui est bien parti à la tête d'une liste de la gauche unie sans LFI qui arrive en tête avec 38% des suffrages devant Rachida Dati, la candidate de droite qui, elle, en remporte 25 selon des résultats quasiment définitifs. Sont qualifiés, on l'entendait avec Maureen Suignard, le centriste Pierre-Yves Bournazel et l'insoumise Sophia Chikirou qui compte se maintenir s'il n'y a pas de fusion avec la liste de gauche d'Emmanuel Grégoire qui a pris la parole hier soir.
Les Parisiennes et les Parisiens nous ont placés largement en tête de ce premier tour. Merci. Merci beaucoup. à vous qui avez fait le choix de la gauche unie et des écologistes. Votre message est clair, vous voulez un Paris solidaire, un Paris écologique, un Paris fier, un Paris populaire. Vous voulez un Paris juste, vous avez voté pour vos valeurs, vous avez voté pour la gauche qui peut gagner, vous avez voté pour la gauche qui veut gagner. Mais rien n'est fait. Dimanche prochain, la droite et l'extrême droite peuvent l'emporter à Paris. Je le dis avec la gravité qu'impose ce moment inédit pour notre ville. Une ville que le monde entier regarde. Je souhaite ce soir m'adresser à toutes les Parisiennes et les Parisiens. J'appelle tous les électeurs du camp républicain, du camp du progrès, quel qu'a été leur choix ce dimanche, à soutenir la liste que nous portons. Soyons clairs, les faits sont là. Rachida Dati sera jugée dans quelques mois pour corruption et trafic d'influence. Sarah Knafo vote au Parlement européen avec les élus de Viktor Orban, avec les néo-nazis et l'ensemble de l'extrême droite européenne. La probité et l'exemplarité sont les piliers de la démocratie et Paris ne mérite pas cette humiliation. Le seul vote qui comptera vraiment dimanche prochain, le seul vote qui permettra d'empêcher que la droite et l'extrême droite détruisent tout ce qui fait de Paris une ville à vivre, c'est le vote pour ma candidature. À toutes celles et ceux qui veulent que Paris reste une promesse d'émancipation, de liberté et de fraternité, votez. À toutes celles et ceux qui refusent les mensonges, les affaires, la stigmatisation, votez. Parisiennes, Parisiens, votez pour que notre ville, Paris, ne se renie pas. Dimanche prochain, votez pour la liste de la gauche unie et des écologistes que je conduis. Votez pour les Parisiennes et les Parisiens. Votez pour Paris. Nous gagnerons ensemble. La bataille du deuxième tour commence maintenant.
Le discours d'Emmanuel Grégoire, le candidat qui arrive en tête, largement en tête à Paris, autre ville où l'union de toutes les listes de gauche pour le second tour n'aura sans doute pas lieu, c'est Marseille. Quatre candidats sont qualifiés pour le second tour. Benoît Payan, le maire sortant, de gauche, 36% des voix, ce premier tour. Derrière lui, juste derrière lui, à 35%, le candidat RN, Franck Alizio, et celui qui va peut-être permettre ou pas à Benoît Payan de l'emporter, c'est la tête de liste insoumise, Sébastien Delogu, qui lui remporte 12%. Il appelle à l'union, mais Benoît Payan refuse toute fusion entre leurs deux listes. Alors, a-t-il les moyens de garder, de gagner sans LFI ? Mathilde Vinceneux, le maire, indique qu'il refuse, quoi qu'il arrive, de fusionner.
Devant le QG de campagne de Benoît Payan sur la Canebière, on croisait hier soir des électeurs de gauche hagards, comme Anne-Marie, sonnée par cette percée du Rassemblement National dans la deuxième ville de France.
Ce score du RN me choque terriblement. Je savais qu'il ferait un score élevé, mais pas ce point-là. Marseille passait au RN, mais c'est... Non, c'est, pour moi c'est impensable.
Nabil, lui, vient d'interrompre sa livraison en scooter pour échanger avec des militants. Il se dit très inquiet.
Marseille, c'est une ville cosmopolite, c'est une terre d'immigration. Laisser cette ville, cette belle ville aux mains du RN, ce serait catastrophique pour les Marseillais et les Marseillaises.
Alors pour le jeune homme, il n'y a pas le choix. L'ancien socialiste Benoît Payan doit élargir encore son union de la gauche pour s'allier avec l'insoumis Sébastien Delogu et battre l'extrême droite.
Je peux comprendre qu'au niveau national, il peut y avoir des divergences, mais à partir du moment où on a la menace du Rassemblement National ici à Marseille, il faut que l'alliance de la gauche soit la plus large possible. Franchement, j'espère que Sébastien Delogu et Benoît Payan ils vont trouver un compromis pour que Sébastien Delogu puisse rejoindre la liste du printemps marseillais.
Le candidat insoumis Sébastien Delogu a appelé dès hier soir le maire sortant à construire ensemble, je cite, un front antifasciste à Marseille, une main tendue balayée par Benoît Payan.
Vous m'avez parlé de main tendue. Vous savez, cette main-là, elle m'a donné des coups de poing pendant des mois et des mois. Et au soir, de se partager les places, elle deviendrait tendue. Ça n'est pas ma conception de la politique. Je ne ferai aucune négociation de couloir. Je ne ferai aucune tambouille.
Benoît Payan se place en seul rempart contre l'extrême droite et appelle les Marseillais à voter massivement pour sa liste du printemps marseillais.
Il n'y a plus que deux issues possibles. Soit la liste du printemps marseillais l'emporte, soit la liste du Rassemblement National l'emporte. Tout autre choix est un choix qui permet au Rassemblement National d'emporter
cette ville.
Benoît Payan compte sur la responsabilité des électeurs insoumis pour briguer un deuxième mandat.
France Info, reportage à Marseille, signé Mathilde Vinceneux. Nous sommes à Lyon désormais avec une grosse surprise. Pendant très longtemps et dans la plupart des sondages, Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, investi par le centre et par les Républicains, était donné gagnant, même parfois dès le premier tour. Mais il arrive donc deuxième, derrière Grégory Doucet, le maire sortant écologiste à la tête d'une liste d'union de la gauche, remporte 37,3% des voix, devant Jean-Michel Aulas, 36,7%. Jean-Michel Aulas, nous le disions, était donné en tête, mais ce n'est plus le cas. Et l'ex-président du club local file donc la métaphore sportive.
Il y a le match retour la semaine prochaine. Nous sommes en train de nous organiser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe chez nos adversaires, on voit que l'accord de la honte est en train de se mettre en place. Et je ne pense pas que les Lyonnaises et les Lyonnais aient envie que Lyon soit à l'extrême gauche. Donc nous allons nous organiser, expliquer que le programme qui a été conçu est l'un des meilleurs programmes qui ait jamais été réalisé pour une grande ville comme Lyon. Des centaines de gens ont travaillé sur ce programme et les fake news sont arrivées pour laisser penser qu'il n'en était rien. Donc nous allons faire en sorte de jouer le match retour avec tous nos arguments. Nous sommes aussi dans une disposition où c'est la première des confrontations. J'arrive d'un monde qui est un monde de la société civile, entouré évidemment de l'ensemble des partis politiques qui nous avaient rejoints. Mais c'est vrai que souvent, les termes qui ont été utilisés sont des termes qui étaient des termes complètement frelatés, en particulier sur l'approche qui a été faite de notre dynamique, une dynamique qui a été ressentie. En arrivant partant de zéro et en mettant en difficulté le maire sortant, par rapport au sondage, on peut être déçu, mais dans la réalité, c'est une victoire qui nous permet d'envisager au deuxième tour contre l'alliance de Jean-Luc Mélenchon et de Grégory Doucet, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'attendent les Lyonnaises et les Lyonnais. Donc nous allons nous organiser, répondre et nous préparer pour ce deuxième tour, et avec des chances tout à fait, on va dire, acceptable de pouvoir l'emporter.
Voilà pour cette prise de parole de Jean-Michel Aulas, l'ex-président de l'OL, qui arrive deuxième avec sa liste centriste à Lyon. Et s'il faut continuer à filer cette métaphore sportive, l'écologiste Grégory Doucet, lui le maire sortant, qui arrive premier, savoure une remontada.
Les Lyonnaises et les Lyonnais ont envoyé un message sans équivoque en se déplaçant nombreux dans les bureaux de vote. L'avenir de leur ville leur importe. Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis ce grand rendez-vous démocratique dans les 939 bureaux de vote de la ville. Merci à elles, merci à eux. Je veux bien sûr également remercier et féliciter nos têtes de liste d'arrondissement qui sont avec moi. Et toutes celles et tous ceux, vous, qui avez sillonné les rues de Lyon, quartier par quartier, immeuble après immeuble, depuis plusieurs semaines, vous n'avez cessé de battre le pavé. Bravo et merci! Nous avons écouté les préoccupations des Lyonnaises et des Lyonnais. Le loyer trop cher, le manque de médecins, les incivilités ou encore l'air pollué. Nous avons mené une campagne à hauteur d'habitants, ancrée dans la réalité, respectueuse de tout à chacun. Nous avons fait une campagne de terrain, de proximité, d'écoute, une campagne sérieuse et responsable face aux mensonges et aux promesses irréalistes. C'est ce travail que reconnaissent les résultats de ce soir. Ce n'est pas qu'un résultat, c'est une dynamique. Et cette dynamique, non, on ne l'arrêtera pas. Le résultat ce soir déjoue tous les pronostics. Alors que le premier sondage annonçait une défaite dès le premier tour, nous n'avons jamais renoncé. Et le résultat est aussi éminemment politique. Face au vent mauvais de la réaction, face à un candidat soutenu par Laurent Wauquiez, complaisant avec les mouvements d'extrême droite, les Lyonnaises et les Lyonnais ont rappelé leur attachement aux valeurs humanistes de notre ville.
Grégory Doucet, le maire sortant écologiste de Lyon qui arrive en tête du premier tour de ses municipales. Et je rappelle que vous retrouvez l'intégralité des résultats sur franceinfo.fr. C'est l'heure de la météo.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peignat, les nuages sont de retour.
Mais oui, ils sont de retour malheureusement pour une journée, avec un peu de pluie sur le quart nord-est, entre Lille, Paris, Clermont-Ferrand, jusqu'en Bourgogne et jusqu'à Strasbourg. Quelques averses intermittentes, surtout cet après-midi, quelques rayons de soleil entre deux averses. Le soleil, on va le trouver dans le sud-est, il est revenu sur la région PACA notamment, le Languedoc Roussillon jusqu'aux Pyrénées orientales, sur le sud-ouest, au sud de la Garonne, ça va se dégager, mais cet après-midi, surtout les températures en légère hausse à partir de demain, plein soleil et douceur de nouveau. Aujourd'hui, on ira de 11 à Nancy à 20 à Montpellier quand même.
Merci beaucoup Christine Peignard. Alors je ne sais pas pour qui vous votez pour ce 6-9, mais moi je vote Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour William.
Vous avez ma voix.
Vous avez le droit de revenir donner de la voix tout à l'heure pour le journal de 7h. Merci à vous, très belle journée. Bonjour Christine Peignat,
bonjour
Solène Cressant qui continue d'écrire son journal de 6 heures de piano.